Évidemment, je vous propose de prendre le temps maintenant de méditer ensemble la parole de Dieu. On aura ensuite à nouveau un temps de louange, d'action de grâce autour de la scène. Je vous fais un message toujours sur la thématique de l'Église. On continue, on avance, on aborde d'autres aspects de la thématique de l'Église, mais je vous fais un message un peu plus condensé, un peu plus court aujourd'hui, puisque à la fin, pendant les annonces, je vais avoir une communication à vous faire qui sera un petit peu plus longue, et du coup, je vais avoir besoin d'un petit peu de temps, mais rassurez-vous, tout va bien se passer dans la communication que je vais vous faire, vous allez tout comprendre dans quelques minutes, c'est-à-dire dans moins d'une heure. Pour l'instant, je voudrais qu'on médite ensemble la parole de Dieu. Vous pouvez ouvrir avec moi le livre des Actes des Apôtres et prendre avec moi le chapitre 11 au verset 19. Par contre, je n'ai pas la main sur le PowerPoint. Est-ce que tu peux, il n'y a pas grand chose, tu peux descendre, vas-y. Ou le relancer, merci. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19, voilà, merci beaucoup. Nous avions, on n'a jamais tout dit, mais nous avions vu l'essentiel dans la question de nos relations les uns les autres, dans cette thématique de l'Église, l'essentiel est en vue. Je passe à un autre aspect, il n'y a rien de compliqué ce matin. J'ai à cœur de parler avec vous de l'Église d'Antioche, non pas la Antioche de Pisidie qui se trouve dans la Turquie actuelle, mais Antioche qui se trouve largement au nord d'Israël et qui est la première église d'origine non juive. Et on va considérer une caractéristique essentielle de l'Église au travers d'elle, puisque cette Église d'Antioche est une Église modèle, mais cette caractéristique essentielle qui se trouve être l'Esprit de la grâce, qui régnait en son sein, qui animait sa mentalité, son état d'esprit, cet Esprit de la grâce va se décliner sous deux aspects, mais en fait c'est juste ça pour le PowerPoint ce matin. Acte 11. Le verset 19 à 30, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Enfin, géographiquement, c'est une expression, parce que géographiquement, ils ne sont pas descendus, ils sont montés. Hein. C'est comme si on allait de Marseille à Lyon, hein, ils sont montés. Ils descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva effectivement sous Claude, c'est-à-dire probablement autour de l'an 45, 46, 47. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. On est toujours dans les caractéristiques de l'Église et j'ai à cœur de considérer avec vous donc l'Église d'Antioche, cette première Église d'origine non juive qui s'avère très rapidement une Église modèle. Et nous voyons juste cet élément essentiel de l'Église, c'est un fondement, c'est le fondement de la grâce, un fondement sur lequel elle est bâtie, comme je vous l'ai dit, qu'on va décliner sous deux axes. C'est le texte qui nous donne nos points de méditation, très simplement. Le premier axe, c'est la grâce sous l'aspect spirituel et ensuite la grâce dans le domaine matériel. D'abord, sur le point spirituel, on voit que cette Église est profondément marquée, elle est réellement imprégnée par la mentalité de Christ, c'est-à-dire par l'état d'esprit de la grâce. Elle a la vision des perdus, et je serais même tenté de dire, elle a fini par avoir la vision de toutes, c'est important de le préciser, de toutes les âmes perdues. Parce que vous avez vu, comme moi, au verset 19, que les premiers disciples, ils n'annonçaient pas l'évangile à tout le monde. Ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Quand on lit le chapitre précédent, on s'aperçoit que, oui, même quelqu'un comme Pierre n'avait pas forcément compris tout de suite. Les premiers disciples n'avaient pas compris tout de suite. Il y avait dans leur cœur, ils étaient sélectifs. Et acte 10, si vous avez déjà lu, sinon refaites-le, vous voyez comment, alors que Pierre est à Jopé, il est à la limite, Jopé c'est juste à la limite de la Judée, il est à la frontière géographique, mais aussi il est bloqué intérieurement, parce qu'il y a une frontière spirituelle qu'il ne veut pas passer, c'est celle de la Samarie. Et Jésus avait dit, à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Et puis un jour arrive le moment fatidique où Pierre est là, il prie, il tombe en extase, le Seigneur lui présente cette vision et par trois fois le Seigneur insiste pour que de Jopé il accepte de franchir pas seulement une frontière matérielle, mais une frontière spirituelle pour aller à Césarée, pour aller chez Corneille, pour aller prêcher l'évangile à des non-juifs. Parce que pour lui au départ, c'était pas concevable. Et ici au verset 19, c'est la même chose. Il ne prêche l'évangile qu'aux juifs. Il témoigne toujours aux mêmes personnes. Il parle toujours aux mêmes personnes. Ils sont toujours en train, dans les mêmes cercles, en train de parler aux mêmes personnes. Et puis quand Pierre a enfin cédé au Saint-Esprit qui lui a dit « Non Pierre, maintenant tu vas aller parler à ces hommes. » Petite parenthèse. Le Seigneur a dû se manifester une seule fois à Corneille. Une fois. Pour lui dire, va chercher Pierre, va chercher ce pasteur évangélique et demande-lui de te parler du plan du salut. Une fois, il a dit, ok Seigneur, je vais le faire. Mais le grand apôtre Pierre, il a fallu que le Seigneur lui dise trois fois, tu vas chez Corneille, non Seigneur, tu vas chez Corneille, non Seigneur, tu vas chez Corneille. Et il est écrit qu'au bout de trois fois, Pierre s'est dit, il a réfléchi à la vision et il s'est dit, ouais, je vais peut-être aller chez Corneille. Et une fois que Pierre a été chez Corneille et qu'il a vu l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit descendre sur eux pendant la prédication et qu'il a vu la grâce de Dieu, il s'est dit « je ne peux pas leur refuser le baptême ». Donc tout s'est enclenché, mais une fois que Pierre il a fait ça, oh là 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 là, lisez le chapitre 10 et le chapitre 11, les autres apôtres et les autres disciples, ils ont convoqué Pierre. Ils lui ont dit « non mais t'es gentil, tu vas nous expliquer de quel droit et par quelle autorité tu as été prêché dans la maison de quelqu'un qui n'est pas juif ». Vous vous rendez compte dans l'Église primitive comment ça explosait de partout, mais ils n'avaient quand même pas tout compris. Donc si Pierre n'avait pas tout compris, qu'est-ce que tu veux dire Seigneur? Je t'écoute, je n'ai pas tout compris. Et Pierre, il a dû s'expliquer auprès des chrétiens, et il a dû s'expliquer auprès des chrétiens juifs, d'origine juive, et auprès des apôtres. Et il est dit au chapitre 11 qu'ils lui ont fait des reproches, de vifs reproches, mais quand ils ont entendu ce qu'il avait à dire, ils se sont calmés. Ah, ça a dû être bien quand même, la petite réunion là. Alors oui, ils étaient dans la plénitude de la grâce. Oui, ils poursuivaient l'œuvre et l'enseignement de Jésus. Oui, ils étaient dans le salut. Oui, mais seulement auprès des Juifs. Et sur ce point, ils étaient restés très sélectifs. Qu'est-ce que ça m'enseigne? Ça m'enseigne que, heureusement que quelques hommes se sont dit, mais c'est pas normal au final, il faut pas qu'on prêche seulement aux Juifs. On va parler aussi à ceux qui sont d'origine non-juive. On va parler à tous, parce qu'au final, l'Évangile, il doit être pour tous. Donc ils ont eu besoin, et nous n'en avons-nous pas besoin, de développer leur vision, d'élargir leur cœur, et de voir l'ensemble des personnes perdues. Et puis, on se rend compte que la grâce de Dieu, alors qu'ils étaient au bénéfice de cette grâce incomparable qu'ils devaient chanter comme nous, mais pas sur le même recueil, mais ils devaient la chanter aussi. Et on s'aperçoit que la grâce avait encore du chemin à faire dans leur cœur. Ils avaient besoin de se laisser modeler, façonner par l'esprit de la grâce. Ils étaient coincés dans leur zone de confort. On est d'origine juive, on parle à des juifs. Il a fallu qu'ils sortent de leur zone de confort. Et quand ils sont sortis de leur zone de confort, parce que, mes bien-aimés, c'est seulement quand on sort de nos zones de confort que le Seigneur fait ses miracles. Alléluia. Alors, ce qui s'est passé versets 20, 22, 23, 24, il y a eu un tel réveil que Jérusalem en a entendu parler. C'est comme si à Marseille, on entend parler d'un réveil qui se passe à Lyon. Et du coup, Jérusalem va envoyer Barnabas et leur dit, bah, écoute, va voir ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe à Lyon, mais tu vas monter de Marseille. Il faut absolument avoir ça parce que là, à Lyon, ça bouge. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe là-bas. On a des échos extraordinaires. Donc, il y a un grand nombre qui se convertit au Seigneur. Verset 24, une foule assez nombreuse se joignit. Et puis, Barnabas, lorsqu'il arrive, il est envoyé par l'église de Jérusalem. Et quand il arrive, verset 23, quand il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu dans cette église, il s'en réjouit. Mais voyez, moi, ce qui m'interpelle, bien-aimé, cet état d'esprit, cette mentalité de la grâce qui régnait dans l'Église, cet esprit de la grâce qui était palpable, Barnabas n'a pas été interpellé par la taille du bâtiment. Il n'a pas été interpellé par les talents qu'il y avait dans l'Église. Il n'a pas été scotché, pardonnez-moi, par ses capacités. Il n'y avait rien de... Non, il n'a pas été par ses activités, par ses œuvres. Non, il n'a pas été influencé ou impressionné par tout ça, mais il a été interpellé par la grâce, l'esprit de la grâce qui régnait au sein de cette église, justement d'origine non-juive. Et il a vu la main du Seigneur, l'action de Dieu, parce que, mes bien-aimés, la grâce de Dieu, elle se voit premièrement dans la vie des pécheurs repentants dont la vie est changée, transformée par la puissance de l'Évangile. Amen. Quand il a vu la grâce de Dieu, il en a été interpellé. Alors quand on parle de grâce, bien sûr, vous le comprenez bien, l'Évangile ne parle jamais, la Bible ne parle jamais d'une grâce laxiste ou permissive. On n'est pas tolérant avec le péché, ni avant la conversion, ni après la conversion. Mais on parle de cette grâce qui est notre seule porte, notre seule voie de retour, qui s'appelle Jésus-Christ, parce qu'il est lui-même l'incarnation de la grâce. Il est la personnification même de la grâce de Dieu, l'expression la plus élevée, la plus haute de la grâce de Dieu pour l'humanité pécheresse, déchue, imméritante. Et cette grâce, elle accueille sans distinction, peu importe ce que les gens ils ont fait. On ne regarde pas à la taille de leur péché. On ne regarde pas la quantité de péchés, on ne regarde pas depuis combien de temps ils y sont. Je sais qu'on aime bien dans nos églises, pardon, on aime bien les gens qui ne sont pas trop pécheurs parce que ça fait des situations pas trop problématiques et on n'est pas trop défiés. Mais en réalité, le Seigneur, lui, ne fait pas de distinction. Le péché, c'est le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et peu importe la personne qui arrive, je sais une chose, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant que le sang de Jésus. Il n'y a rien de plus puissant qu'un pécheur qui se repent et qui place sa foi. Et qu'il n'y a rien de plus puissant que l'esprit de la grâce pour transformer des pécheurs en fils et en filles. Des prodigues en haillons, il les transforme pour les restaurer. Il en fait des fils du royaume. Alors, bien évidemment, on ne ferme pas les yeux sur le péché, mais on sait que seule la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ à la croix, par des repentances et des conversions authentiques, peuvent changer le cœur de ce monde, de cette société, de n'importe quelle personne, quelle qu'elle soit. Et je me dis, Seigneur, dans ta grâce, garde-moi de devenir sélectif, garde-moi d'apporter un évangile à des gens seulement quand il me semble pas trop compliqué à gérer, mais d'avoir le même cœur pour tous et le même évangile pour tous. Parce qu'il faut des situations impossibles pour que le Dieu de l'impossible puisse entrer en action et qu'il fasse son œuvre et qu'il manifeste sa gloire. Amen. Sinon, l'évangile n'est plus l'évangile. Alors, je dis, Seigneur, garde-moi, garde-nous dans cette vision extrêmement importante des perdus, de tous les perdus, parce que, mes bien-aimés, quand une église n'est pas profondément imprégnée, imbibée par l'esprit de la grâce, elle devient religieuse. Elle devient légaliste. Elle se recroqueville, elle s'enferme sur elle-même. On est bien entre nous. Pardon, l'Église devient bien pensante. Elle oublie d'où elle vient, elle oublie ce qu'elle a été, elle oublie ce que le Seigneur a fait pour elle, et elle oublie sa raison d'être, parce que pourquoi, mes frères et sœurs ? Mais qu'est-ce qu'on fait encore ici ? Pourquoi le Seigneur n'est pas revenu ? Pourquoi il ne nous a pas pris ? Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Ben, la raison d'être de l'Église, c'est justement d'être une Église selon le cœur de Dieu, profondément marquée par la mentalité, l'état d'esprit de la grâce. Et la raison d'être d'une Église, c'est de vivre et de porter l'Évangile partout autour d'elle, à tous, et d'avoir un rayonnement dans le lieu où le Seigneur l'a placé. Et pardonnez-moi, et pas de passer son temps à gérer des problèmes internes. Ce n'est pas ça la vocation d'une Église. La vocation d'une Église, c'est l'amour des perdus. Une Église, selon le cœur de Dieu, est une Église, j'insiste, qui est profondément préoccupée par le salut des pécheurs, de tous les pécheurs sans exception, sans jugement, sans sélection, sans distinction, parce que Jésus, lui, il est l'expression la plus parfaite de la grâce. Et moi, je veux ressembler à mon Seigneur et je veux avoir le même amour, la même grâce, le même équilibre et la même compassion. L'Église, Jean 3,16, on le connaît bien. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus afin que quiconque croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vocation de l'Église, c'est à titre autant sur l'individuel que sur le collectif, la vocation de l'Église, c'est de porter sans cesse, de vivre déjà, il faut le vivre soi-même, puis ensuite de porter ce message, ce témoignage de la grâce de Dieu. Parce que si on enlève l'Évangile, si on décentre, ne serait-ce qu'un tant soit peu, l'Évangile du message de fond qui est la grâce de Dieu, l'Église, elle perd sa raison d'être. Alors que la grâce est souveraine, bien sûr, la grâce de Dieu est surabondante, la grâce de Dieu est suffisante pour n'importe quel besoin, n'importe quel pécheur, n'importe quelle situation. Il n'y a rien, on l'a chanté, il n'y a rien de plus puissant, de plus précieux que le nom de Jésus. Il y a tout dans le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus suffit, il suffit pleinement, il suffit pour tout, il suffit pour tous. C'est cette grâce qui est libératrice, qui est enthousiasmante, et puis évidemment qui va rester équilibrée, parce qu'on ne veut pas baisser la barre sur... Jamais on baissera la barre, j'insiste. On ne baissera jamais la barre sur la conviction de péché. On ne baissera jamais le niveau du message sur la conversion, sur la nouvelle naissance, sur les fruits dignes de la repentance qui suivent une authentique repentance, etc. On ne baissera jamais la barre sur les fondamentaux du baptême et compagnie et compagnie. L'Église, évidemment, on en est conscient. Ce sont des disciples. Je sais qu'il y a parfois des églises qui, parce qu'elles étaient beaucoup plus préoccupées par leurs chiffres d'affaires, combien est-ce qu'on a eu de gens cette année, combien est-ce que... On a fini par être moins regardant, puis on a baissé la barre. Non, on ne baissera jamais la barre. La repentance, c'est la repentance, la conviction de péché, c'est la conviction de péché, etc. etc. On n'a pas le droit de baisser la barre. Mais ce qu'il nous faut, c'est cet amour, évidemment, profond. Et cet amour pour n'importe quel perdu, quel qu'il soit. Une église, un disciple, l'église est constituée de disciples. Un disciple, une église, ne doit jamais oublier le prix que Jésus a payé pour qu'elle existe. Je n'ai pas le droit d'oublier le prix que Jésus a payé pour que je sois là. Et s'il n'était pas venu me chercher, où serais-je ? Alors comment puis-je, moi, aujourd'hui, bénir Dieu ? C'est bien, il faut le faire. Dire, Seigneur, tu m'as sauvé, tu nous remplis, tu veux. Mais oubliez que s'il n'était pas venu me chercher, si quelqu'un n'était pas venu vous chercher, on ne serait pas là. Qui ici a eu... est devenu chrétien par une révélation directe du ciel. S'il y en a un qui lève la main, j'appelle l'ambulance. Personne n'a eu par une révélation directe du ciel. Aucun ange ne s'est présenté à vous. Ah, dans les pays persécutés, là où effectivement, oui, des musulmans n'ont pas accès ni à Internet, ni à aucune Bible, ni à rien du tout. Ah, certains racontent des témoignages, des visions extraordinaires d'un glorieux ressuscité, une main percée qui s'approche d'eux. Vous avez des témoignages extraordinaires parce qu'ils sont coupés de toute forme d'église, de toute forme de témoignage. Mais nous, il y a forcément quelqu'un qui nous a parlé. Nous, on a accès à la Bible, on a accès à l'Évangile. Nous, on a les droits de l'homme qui nous protègent. Il y a forcément quelqu'un qui nous a parlé, forcément quelqu'un qui nous a, qui a prié, quelqu'un qui nous a conduits. Je ne veux pas oublier d'où je viens. Je veux ne pas oublier que c'est par la grâce de Dieu que je suis devenu ce que je suis devenu. Et je prie pour que nous soyons bien-aimés tous, imprégnés, marqués par l'Esprit de la grâce, pour des pécheurs qui doivent se repentir et découvrir la puissance de la grâce de Dieu. Le message de la grâce, quand l'Église est dans l'état d'esprit de la grâce et qu'elle annonce avec tout l'équilibre, on parle bien de l'équilibre de la parole, dans l'amour, dans la compassion, sans faire de compromis, avec l'onction, la puissance du Saint-Esprit, l'Évangile aujourd'hui en 2026 est encore plus que suffisant. Je ne connais rien d'autre, je ne veux entendre rien d'autre, je ne crois en rien d'autre, je ne mets mon espérance en rien d'autre. L'Évangile est suffisant, l'Évangile de la grâce est suffisant. Et combien, bien-aimés, dans nombre d'églises, on a besoin de redécouvrir ce puissant message de la grâce qu'il nous booste nous-mêmes et qu'il nous pousse ensuite vers tous ceux qui ont besoin. Parce que c'est pour ça qu'on est encore là, bien-aimés, et que le Seigneur ne nous a pas encore repris. Cette grâce incomparable qui a fait une telle œuvre parmi eux, elle les a changés, elle les a transformés, tellement changés que, j'aime beaucoup le verset 26, c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens, ce qui plus tard a donné chrétiens, chrétiens. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que ce ne sont pas les disciples qui se sont dit, bon, ben maintenant qu'on est là, depuis le temps qu'on est là, il faudrait qu'on se donne un nom, comment on pourrait faire pour, etc., qu'on se définisse. Ce sont ceux qui ne connaissaient pas Christ, qui, en les voyant, ont décidé du nom qu'ils allaient leur donner. Le nom de chrétien que vous portez, bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est pas vous qui l'avez choisi. C'est ceux qui ne croient pas en Jésus qui l'ont choisi pour vous. Et qu'ils ont dit, eux, ils s'aiment et ils nous aiment comme le Christ. Ils ont une vie de sainteté comme le Christ. Ils font des miracles comme le Christ. Ils se pardonnent comme le Christ. Ils ont une vision des perdus. Ils sont patients comme le Christ. Ils se comportent, ils parlent comme le Christ. Ils réagissent comme le Christ. Ben, ce sont des chrétiens. Et c'est comme ça que le mot chrétien a donné le mot chrétien. L'Église qui est une, selon le cœur de Dieu, elle va refléter le cœur de Dieu, elle va être l'expression de son être, et Dieu va se rendre réel, il se rend palpable, évident, il se rend visible au travers de l'Église qui rayonne de lui. Et vous voyez, bien aimé, même s'il y a des tas de questions dans des églises qui sont légitimes, bien sûr, il y a des questions légitimes, la plus grande question qu'une Église devrait se poser, c'est à quel degré, à quel point est-ce que nous reflétons le cœur de Dieu pour ce monde ? À quel point est-ce que nous reflétons Christ ? Et ça, c'est réellement, ça devrait être la préoccupation majeure de l'Église, son degré de ressemblance. Et puis, ça c'est le premier axe, c'est l'axe pratique, spirituel, par rapport au salut, les vies transformées, l'œuvre dans les cœurs. Et puis, cette Église, elle est aussi imprégnée par l'Esprit de la grâce dans un axe, cette fois-ci, très matériel, très concret et très pratique. Ce que je note au verset 29, c'est que cette Église d'Antioche, cette première Église d'origine non-juive, cette Église modèle, c'est une Église généreuse. Ce qui est une autre forme d'expression de la grâce de Dieu. Elle n'est pas seulement généreuse en amour, en compassion, en écoute, en miracle, en choses spirituelles, en vie transformée. Elle est aussi généreuse de façon très pratico-pratique. Au verset 29, on sait qu'il y a effectivement, elle est survenue autour de l'an 45-46, sous Claude, comme dit le texte. Ça, c'est vérifiable aussi par l'histoire profane. On sait que il y a effectivement une famille qui a frappé toute cette famine a frappé tout ce secteur, et puis elle a frappé aussi à l'extérieur, d'où cette expression sur toute la terre. Littéralement, c'était peut-être pas sur toute la terre, mais cette famine a eu une telle importance que c'est vrai qu'elle a traversé les frontières et elle a concerné le bassin méditerranéen, la région autour. Et la famine va frapper sur toute la terre et par conséquent, y compris à Antioche. Antioche, c'est cette église, sait qu'elle va bientôt entrer dans des temps de pénurie sérieuse. Eh bien, voyez, moi, ce qui m'interpelle, c'est que cette église, alors qu'elle sait qu'elle va être concernée par la famine, elle a quand même pourvu, elle a quand même donné à Saul et Barnabas le nécessaire pour aller pourvoir aux besoins des autres. Et ce qui est frappant dans cette église, et c'est en cela qu'elle est une église modèle, c'est par la foi, pas seulement la foi pour les miracles ou le témoignage ou ça, mais la foi aussi, l'esprit de la grâce, l'esprit de la foi qui est en son sein, pour se dire, de toute façon, Dieu va pourvoir. Mais nous, on ne va pas se recroqueviller sur nous-mêmes. On ne va pas se replier, on ne va pas faire du protectionnisme. Il va y avoir une famine, on risque aussi d'être touché d'une façon ou d'une autre, mais ils n'ont pas fait des stocks. C'est au moment où on leur a dit « vous allez avoir des moments compliqués » qu'ils ont ouvert les greniers et qu'ils ont commencé à distribuer, à donner ce qu'ils avaient. Si ça, ce n'est pas de la foi, il faut m'expliquer ce que c'est. Et ils ne se sont pas repliés sur eux-mêmes, mais ils ont donné, ils ont pourvu, ils ont béni. Et c'est aussi en cela que l'église d'Antioche est une église modèle selon le cœur de Dieu. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, humainement parlant, ça aurait été tellement logique de se dire « bon, ben, vu que demain, on ne sait pas, on va faire attention à ça, et ça, et ça, et ça. » Ils ne se sont pas inquiétés. Ils ont donné. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on s'inquiète? Vous voulez qu'on s'inquiète de quoi, bien-aimé? Notre Dieu ne s'appelle-t-il pas Yahvé Jiré? Dieu pourvoit. C'est son nom. Son nom est lié à son identité. Pour qui tu es, on a chanté. C'est son identité, c'est qui il est. Dieu ne peut pas faire autrement que de pourvoir, sinon il se renierait lui-même. Pourquoi dites-vous, j'ai pas dit à Fred de dire ça, hein. Pourquoi dites-vous, demain que mangerons-nous, que boirons-nous? À un moment, il a cité Matthieu 6. Et regardez les oiseaux, regardez les lys des champs, ils ne filent pas, regardez les oiseaux, ils ne travaillent pas, ils ne sèment pas, ils n'amassent pas. Votre Père les nourrit, à combien plus forte raison votre Père est capable de vous nourrir? Pourquoi vous inquiétez-vous? Inquiétude de quoi? De qui? De comment? Mon Dieu s'appelle Yahvé Jiré, je pourvois. Il ne peut pas renier sa propre nature. Donc ce qu'a fait l'Église, parce qu'elle devait avoir dans cet esprit de la grâce, esprit de grâce et de foi sont indissociables, puisque la nature de Dieu c'est de pourvoir, ils se sont dit, ben nous on n'a pas peur de demain. Donc sur cette base-là, puisque Dieu prend soin, puisqu'on sait, c'est biblique, que Dieu ouvre des écluses, que Dieu déverse des bénédictions sur ceux qui savent être fidèles, qui savent être généreux, même dans les choses matérielles, ben ils l'ont fait. Parce que c'est un acte de foi. C'était leur façon de prouver, Seigneur, nous te faisons pleinement confiance. Alors, pour nous, demain, on sait que tu as pourvu, mais nous, on va bénir nos frères. Et c'est ce que, dans cet acte de foi, ils ont décidé de faire. Et là, c'est pareil, bien-aimé. C'est autant sur le spirituel, dans le domaine du témoignage, du rayonnement d'église, de l'église dans le monde, que sur cette dimension pratique de la fidélité, de la générosité pour les autres membres du corps de Christ, pour les autres églises. C'est pareil. Quand une église se replie, quand une église ferme les vannes, elle s'appauvrit. Ça mettra le temps que ça mettra. mais il y aura nécessairement appauvrissement. Et l'Église d'Antioche, elle avait compris qu'elle ne devait pas se scléroser, elle ne devait pas fermer les vannes, qu'elle allait se scléroser petit à petit, qu'elle ne voulait surtout pas empêcher la bénédiction de Dieu qui devait couler. Alors, une Église qui sait donner, une Église qui sait pourvoir, une Église qui sait bénir, ne peut pas, c'est impossible, une Église qui sait donner ne peut pas s'appauvrir. C'est une impossibilité totale. Parce que Dieu s'appelle... Il s'appelle comment ? Il s'appelle Yahvé Jiré. Merci Seigneur. Et Dieu saura toujours honorer l'Église comme elle honore les autres dans les besoins. Cette générosité, cette bienveillance, je termine avec ça. Cette attention des Églises les unes pour les autres, les unes envers les autres. Ça aussi, c'est très, très caractéristique de l'Église primitive. Et ce qui est remarquable, c'est que Antioche et Jérusalem, ben évidemment, sont des églises qui étaient en autonomie, sont des églises autonomes, mais qui avaient profondément conscience de leur appartenance l'une à l'autre dans le même corps et qui, en conséquence, savaient prendre soin l'une de l'autre. Elles sont dans cette union, dans cette communion d'églises, elles sont dans cette dynamique ensemble et elles sont concernées l'une par l'autre. Elles sont ouvertes les unes sur les autres, sensibles aux besoins les unes des autres. Dieu s'est reconnu, il a été honoré, réjoui et il a béni. Amen. Voilà comment ça fonctionne, c'est aussi simple que ça. Voilà en conclusion, une église selon le cœur de Dieu, bien-aimé, est une église qui est profondément imbibée par l'esprit de la grâce, un amour et une compassion pour tous les perdus, en n'oubliant jamais que sa mission, c'est de faire des disciples, nous sommes très clairs. Et puis, ce deuxième axe, de développer une vision, d'élargir sa compréhension de l'œuvre de Dieu, d'amener une dynamique, une communion d'esprit avec les autres églises, d'avoir le cœur ouvert sur les besoins. L'Église était généreuse, elle secourait, elle prenait soin. Elle était en bénédiction, alors elle a été bénie. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. On se recueille. Merci pour votre attention. Je vais prier pendant ce temps les frères qui ont été préparés.